Deuxième partie. Orsay. Chapitre 20. Gustave Courbet. Crie fort et marche droit.
Non, je ne veux pas.
Lily refusait, butée, de faire la maquette de la brocante. Désignés pour travailler ensemble par un tirage au sort qu'elle croyait heureux, les deux amis devaient choisir leur projet pour la fin de l'année. Mona pensait pourtant que Lily serait enthousiaste à l'idée de miniaturiser la boutique de son père. Mais cette dernière, les poings serrés par une inexplicable rage contenue, n'en démordait pas. Et cette faille soudaine dans leur complicité avait des airs de chanson triste. Elles ne s'adressèrent pas la parole pendant quelques jours. Et puis Lily s'ouvrit soudain. Un mercredi, juste après la fin des cours, en attendant l'arrivée des parents, elle demanda à Mona et Jade de la rejoindre dans un recoin du préau. En parlant, elle ne cessait de hausser les épaules, faisant tressauter son gros cartable sur son dos.
« Papa repart en Italie cet été, et je vais aller habiter avec lui. Aller au collège là-bas. Maman reste ici. Et mon chat, on ne sait pas. Voilà. »
C'était donc cela qui l'avait rendu rétive à tout. L'annonce d'une séparation. Et elle put enfin expliquer à Mona qu'au lieu de faire la maquette de la brocante, elle voulait réaliser celle de sa cuisine, dans laquelle trônait une petite table où chaque soir, elle dînait avec son père et sa mère. En ce début de printemps, les mois d'avril, de mai et de juin paraissaient encore assez longs à Mona, Jade et Lily pour leur donner à vivre une amitié éternelle. Mais elles n'étaient plus tout à fait des gamines. Le divorce des parents de Lily et son départ programmé dans un autre pays rendaient tangible la réduction prochaine de l'enfance en une poudre magique qu'on appelle le souvenir. Mona sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis les grilles de l'école, une voix héla la petite qui octait d'émotion. C'était Henri. Mona, qui ne voulait pas pleurer devant ses camarades, fit volte-face, se précipita, traversa la cour qui résonnait de cris. Le souffle de l'air lui sécha les yeux. Il lui tardait, dans sa course folle, de se réfugier auprès de son grand-père pour ne pas laisser la tristesse l'envahir davantage. Elle l'étreignit fort, poussa un long soupir, puis glissa tendrement sa main dans la sienne. En chemin, Henri lui annonça qu'ils iraient aujourd'hui dans un nouveau lieu, que c'en était donc fini des leçons du Louvre.
Fini? Déjà?
Malgré le ton enjoué de son grand-père, Mona eut un pincement au cœur qui lui donna l'impression d'avaler de la poussière, et le Louvre lui apparut soudain en une pensée fugace, ravagée par le temps, son toit éventré, ses arcades en ruine, semblable à la vision apocalyptique qu'en avait livrée Hubert Robert dans une toile de 1796. Elle voulut s'en ouvrir à son grand-père, le prier d'une dernière promenade avant de devoir changer. Celui-ci perçut son trouble et lui lança un regard aimant. Mais ferme, il fallait avancer. Mona éteignit sa brûlure devant l'éphémère des choses et acquiesça. Oui, il fallait avancer. Alors, au lieu de gagner la pyramide de paille, Henri traversa la cour carrée du palais, puis le pont royal, bifurqua à droite et rejoignit un épais bâtiment sur l'esplanade duquel se hissaient d'énormes animaux en bronze. Pour amuser sa petite fille et lui rappeler leur secret, il lui expliqua que les séances qu'elle était supposée avoir chez le pédopsychiatre chaque mercredi auraient désormais lieu à une nouvelle adresse, au 1 rue de la Légion d'honneur, face à la Seine. C'était une ancienne gare reconvertie en musée, celui d'Orsay. Un écrin plus serré que son voisin le Louvre dans son bornage chronologique qui courait de 1848 à 1914, mais tout aussi prodigue en chef-d'œuvre. Preuve en fut donnée d'emblée. Immense, la toile dressait de manière panoramique un enterrement en pleine campagne. À l'arrière-plan pesait un ciel gris et entourant un bout de vallée, s'étendaient deux falaises crayeuses dont l'une, à gauche du tableau, était ponctuée de maisons. Une tombe, creusée dans un parterre d'herbe et de boue, se situait à la base de l'œuvre, en son centre, mais légèrement en oblique. La fosse était tronquée, comme si elle excédait le cadre jusqu'au point où se dressait le spectateur. Il se trouvait donc dedans, ou presque. Un crâne gisait à son rebord, et à ses côtés, un braque détournait la tête. Entre le paysage au loin et ses éléments très proches, s'accumulaient surtout 36 personnages identifiables, peut-être 45 ou 50, si l'on y ajoutait quelques ombres et les repentirs revenant à la surface, en tout cas des dizaines. L'opacité du pigment, qui s'obscurcissait au fil du temps, fondait les silhouettes en une mêlée qui paraissait dénuée de perspective. En réalité, il y en avait une. Pour la saisir, il fallait examiner attentivement la distribution étrange des figures. Dans la profondeur se déployaient quelques caractères rapetissés par le respect des échelles et difficiles à distinguer. Néanmoins, ils étaient légèrement plus en hauteur que leurs homologues du premier plan, comme s'il y avait une butte et un dénivelé. Ce tour de passe-passe optique rappelait ces amples photographies de groupe où l'on surélève artificiellement ceux du dernier rang pour que leur portrait soit visible. Dans ce rang du fond, en allant de la gauche vers la droite, il y avait un vieillard à l'extrémité du cadre, des officiants en blanc, quelques individus en noir, puis des femmes. Elles étaient une vingtaine de différents âges. En pleurs ou perdues dans leurs mouchoirs, elles approchaient de la fosse en dessinant une procession serpentine dont le virage bifurquait tout à droite du tableau. C'était en suivant leurs pas qu'on comprenait la profondeur de champ, sa succession de rangs et de plans. Enfin, au-devant de cette scène, sur sa partie gauche, avançait le cercueil, couvert d'un drap mortuaire, barré de deux ossements en X et cousu de larmes. Il était porté par quatre hommes au grand chapeau, eux-mêmes précédés par deux enfants de cœur. À leur côté, un porte-croix moustachu et au grand nez lançait un regard frontal au spectateur, tout en hissant une petite effigie du Christ crucifié au-delà de la ligne d'horizon. Autour de la fosse, il y avait le prêtre plongé dans son missel, un fossoyeur agenouillé, quelques notables au regard sombre, deux hommes en rouge et deux autres accoutrés plus élégamment, l'un en bas blanc, l'autre en bas bleu. Après une bonne demi-heure d'allées et venues devant le tableau, Mona se heurtait à une énigme. La morne réalité de cette scène de province était certes très immédiatement perceptible, sans filtre, mais rien n'était pour autant évident. Et le titre indéfini d'un enterrement à Ornan n'offrait guère d'indices.
Dadé, c'est où Ornan? Et qui est-ce qu'on enterre?
C'est la petite ville de Franche-Comté où a grandi le peintre Gustave Courbet. Il en connaît tous les recoins et les habitants, parmi lesquels il figure ici plusieurs membres de sa famille. Il y a son père, de profil au milieu, juste au-dessus de l'homme qui essuie ses larmes. Il a sa mère et ses deux petites sœurs, complètement à droite, et puis quantité d'amis. Il a exécuté sa gigantesque toile fragment après fragment dans un minuscule atelier où il demandait à chacun des modèles de poser successivement. En revanche, le contenu du cercueil demeure mystérieux.
« Tout est très sombre, » commenta Mona. « C'est triste. » Mais il y a quand même des personnages amusants. Certains sont distraits, comme les enfants de cœur, d'autres ont l'air d'avoir trop bu. Il y en a même qui nous regardent.
Oui. Et cette manière de mêler les registres dramatiques et comiques est typique de tout l'art de Courbet. Cela agaça, par exemple, l'influent poète Théophile Gautier. Il se demanda si l'artiste avait voulu être sérieux et exprimer authentiquement le drame du deuil, ou s'il s'agissait d'une caricature qui aurait abusivement pris l'envergure d'une œuvre monumentale. Il pointait notamment du doigt ces deux hommes en rouge au milieu de la composition. Ce sont des bedeaux, c'est-à-dire des laïcs, mais supposés faire respecter la bonne tenue d'un rituel religieux. Théophile Gautier fut interloqué par leur trogne frottée de vermillon et leur attitude avinée, je le cite de mémoire.
« Ah ! Et Courbet, est-ce qu'il était sérieux dans la vie ?»
C'était un bon vivant, mais surtout un grand provocateur, qui déclarait vouloir encanailler l'art. Quand il rejoint Paris à l'âge de 20 ans, en 1839, il doit jouer les coudes pour s'intégrer dans une société exigeante et très codifiée. Mais il est malin, fin stratège et doué. Il fréquente le Louvre et de modestes académies pour se former, et vit surtout dans les cafés où se pressent des rapins sans le sou, des philosophes utopistes et des écrivains maudits. Il boit des litres de bière, chante allègrement et veut marquer l'histoire. Le poète Charles Baudelaire, qui est de ses amis, se moque de lui en disant qu'il croit même pouvoir sauver le monde.
« Mais Dadé, c'est Jésus qui était censé sauver le monde, dit. Et là, en haut du crucifix, il est vraiment tout petit.
Et note en plus que le ciel est bouché, dépourvu de lumière, tandis que le crâne au premier plan, qui symbolise celui d'Adam, le premier homme, est trivialement fendu à moitié. Quant au chien, allégorie de la fidélité, il regarde on ne sait où. Les officiants et le prêtre ne sont guère plus valorisés. La cérémonie a l'ampleur d'une œuvre religieuse, mais elle est d'un aspect quotidien, profane, noyée dans une atmosphère boueuse. Un critique s'exclamera même « C'est à vous dégoûter d'être enterré à Ornans ». En temps normal, une telle peinture aurait été refusée au salon officiel. Mais Courbet avait reçu une récompense pour un autre tableau en 1849 qui lui permit d'exposer ce qu'il voulait un an plus tard. Il profita de la brèche et le scandale fut immense.
« Moi, j'aurais dit que tous ces noirs, ils sont très beaux quand on les regarde de près et qu'il y a de jolis contrastes avec les blancs. »
J'aurais également dit cela et ajouté, comme le fit un partisan du tableau, que c'était l'avènement de la démocratie dans l'art.
Ah, j'ai compris, Dadé. C'est comme pour le portrait de la bohémienne de Franz Hals et celui de Madeleine, la femme noire. Il montre en grand des gens du peuple, c'est ça?
Exactement. C'est un véritable manifeste qui milite pour que quiconque, misérable ou puissant, ait le droit d'être représenté en peinture. De même que tout le monde doit être représenté par ses élus en démocratie. Ajoutons que le tableau est présenté à Paris juste après une violente insurrection en 1848. Celle-ci fut d'abord un succès et fit chuter le régime de la monarchie de Juillet. Mais très vite s'impose à la tête du pays un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Il s'accapare le pouvoir, devient tyrannique. Cette toile semble dire que l'idéal républicain est enterré, mais que le peuple, le petit peuple de la province, des campagnes et de son Jura natal, reste debout, continue de lutter. Car, au bord de la cavité, se tiennent un vieil homme au bas bleu et un autre au bas blanc. Ce sont des vétérans de 1793, c'est-à-dire des figures de la Révolution française, toujours dressées.
Il devait être fier d'être dans ce tableau.
Parmi les dizaines de modèles, tous ne l'étaient pas.
Ils se montrèrent très excités au moment de poser, mais certains d'entre eux eurent par la suite écho du procès en laideur dont le tableau fut l'objet. Ils pensaient que le peintre les avait délibérément humiliés. Par ailleurs, tous ces personnages n'avaient pas les mêmes opinions politiques que Courbet, avec le monde de l'Église d'un côté et les nostalgiques de la Révolution française de l'autre. Les motifs sur le drap mortuaire font même allusion à la franc-maçonnerie, aux antipodes des thèses chrétiennes. Toutefois, le public parisien ne percevait pas ces nuances et ces tensions.
En comparaison des lignes de fuite et des volumes bien nets du serment des Horaces de David, ce tableau avait l'air de couler un bloc de foule sombre et hostile. Devant la toile, des journalistes accusèrent Courbet de fomenter une révolution, d'être un agitateur, un anarchiste venu de sa campagne pour saboter toutes les conventions. C'était exagéré, mais pas complètement faux non plus. Courbet, pendant toute sa carrière, a bravé quantité d'interdits. À son palmarès, il a peint des curés ivres revenant d'une messe sur un âne, et il a même figuré en plan serré un sexe de femme. Disant cela, Henri redoutait que Mona vînt le taquiner en lui demandant d'aller voir cette fameuse origine du monde. Mais la petite n'y pensait pas.
Elle demeurait concentrée sur le cercueil, comme si elle en méditait l'énigme. Qu'est-ce donc qu'on enterrait ici ? Mystère, avait dit d'emblée son grand-père. Mais elle le soupçonnait d'en savoir plus. Et elle avait raison. Car Henri, en inconditionnel de Courbet, avait étudié toutes les hypothèses des historiens de l'art en ce domaine. Entre ces planches funèbres, peut-être y avait-il la sœur de l'artiste, morte en 1834, ou l'épouse d'un des personnages au premier plan, ou bien la République, et pourquoi pas le romantisme. C'est Courbet lui-même qui avait livré cette exégèse plus esthétique. Mais Henri défendait une autre lecture, plus ambitieuse et plus circonstanciée aussi. Pour peindre ce tableau, reprit-il d'une voix profonde, Courbet fit poser des modèles vivants. Mais il ajouta une personnalité qu'il n'avait pas devant les yeux. Car le vieillard qui se situe complètement à gauche de la composition, presque fantomatique dans le prolongement du cercueil, venait de mourir quand l'artiste signa l'œuvre. Mais qui est-ce Dadé ?
C'est Jean-Antoine Oudot, le grand-père de Courbet, souffla Henri d'une voix blanchie par l'émotion.
Comme les deux personnages au bas blanc et bleu du premier plan, sa présence symbolise le lien avec la Révolution, car il fut député de la Convention. Cet homme compta énormément pour son petit-fils et lui dicta un mot d'ordre qu'il allait appliquer sa vie durant. Mona comprit le parallèle avec sa propre situation et même la duplication de celle-ci au moment où son propre grand-père répétait la devise prodiguée par celui de Courbet.
« Crie fort et marche droit », murmura Henri.
« Oh, c'est beau ! Crie fort et marche droit !» répéta-t-elle.
Ce tableau fut un cri dans l'atmosphère feutrée du salon. Un cri de ralliement autour d'une nouvelle fonction de l'art qui supposait de marcher droit pour éviter de se faire écraser par la critique ou les conventions académiques. Ce cri, gonflé de sincérité, s'appelle le réalisme. Un mouvement artistique qui jure d'abord par la représentation du vrai, qui veut faire sentir le réel, dans toutes ses aspérités et dans ses contradictions, parce que les imperfections inhérentes à la vie sont tout le sel de l'existence.
Comme il me plaît ce Courbet.
À Henri aussi, il plaisait, plus qu'aucun autre artiste dans l'histoire. Il raconta à Mona qu'avec sa grand-mère, il avait même tenté, sans succès, de faire sortir sa dépouille du cimetière d'Ornans pour le panthéoniser à l'occasion du centenaire de la Commune. Car Courbet, poursuivit Henri, fut un acteur courageux de ce terrible conflit qui, en 1871, vit les Parisiens résister à la fois aux envahisseurs prussiens et à un gouvernement français capitulard. Le peintre s'était engagé pour un socialisme pacifiste et égalitaire, respectueux du patrimoine et tendu vers l'avenir. Là, vaincu et réprimé, il paya un lourd tribut, la prison, puis l'exil en Suisse, la disgrâce, la maladie, et une mort précoce sous l'œil de son père, le 31 décembre 1877. Mona, en quittant le musée d'Orsay, se mit en tête qu'elle parviendrait un jour à faire entrer Courbet au Panthéon. Henri, amusé, souscrivit au projet. Pourquoi pas pour les 200 ans de la Commune, en 2071. Passant la Seine, il s'émerveillait d'être léger et joyeux, comme on l'est parfois si curieusement au retour d'un enterrement.